Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons méditer un passage de la Bible. Alors, vous avez ce qui est écrit derrière moi. Vous connaissez? Oui. Vous savez qu'on peut le mettre en musique aussi, hein. Alors, écoutez, ça sera le thème de notre méditation. Je vais le relire. Je suis revêtu du vêtement de sa justice et Jésus vit en moi. Il vit en moi. Quel bonheur de savoir combien je suis aimé dans les cieux et que Dieu me donne un sauveur. Et quand Dieu me regarde, quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. C'est un beau poème, un beau chant également, nous l'exprimons. Et pour ce faire, eh bien, je vais vous proposer deux lectures. Et le thème que je vais aborder, le titre que je vais donner, c'est tout simplement un habit de gloire. C'est bien. On est certainement très fiers lorsque nous sommes bien vêtus, bien habillés, autant les dames que les messieurs. Alors on va voir que cet habit de gloire que le Seigneur nous réserve, on va ouvrir donc, je vous l'ai dit, un premier passage, ce sera très bref. Dans le livre, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6. Alors, Paul aux Romains, chapitre 6 et verset 22. C'est la conclusion d'un message que Paul laisse à ses chrétiens de Rome et il nous dit ceci. Mais maintenant, étant affranchi du péché, du mal, de la corruption et devenu esclave de Dieu, enfant de Dieu, je préciserai, serviteur de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et la fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, supériorité du don gratuit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis une deuxième lecture dans le livre de la Genèse, chapitre 3, et là nous allons aborder d'une manière plus significative notre méditation. Alors, Genèse, chapitre 3, verset 21. Et le verset 21, je lis ceci. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Voilà pour la situation de notre réflexion. Adam signifie terre, Adama, c'est-à-dire l'homme de la terre, l'homme du sol, l'homme qui est venu d'en bas. La terre lui a donné un corps, puisque c'est de poussière, que Dieu l'a formé. L'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, lui a fait une âme vivante. Je ne fais que rapporter ce que le livre de la Genèse nous dit sur la création. En cela, Adam est vraiment le fils terrestre du Père Céleste. Et c'est intéressant parce que, vous allez voir dans le développement, Dieu nous aurait pu nous créer directement pour le ciel, sans passer par l'humanité. Pourquoi pas? Mais nous sommes passés par ce cheminement parce qu'il y avait, une nécessité, non pas pour Dieu, probablement pour nous, dans une école de vie, d'existence, mais il y avait une nécessité pour répondre aux défis invisibles, ténébreux, mauvais dans les lieux célestes. Alors c'est vrai que c'est quelque chose un petit peu difficile à saisir, mais on va le comprendre par la suite. Une alternative cruciale. Si Adam reste en communion avec son Père céleste, il n'aura aucune raison de mourir. Ouais. S'il demeure dans cette intimité des premiers jours, chapitre 2 par exemple, du livre de la Genèse, il n'y a aucune raison que la mort soit. Aucune. Parce que Dieu avait prévu dans ce cadre parfait, pour nous, dans son plan parfait, que la vie de ce premier homme, la vie d'Adam, la vie de l'humanité, eh bien, va se transformer et non s'éteindre. Il y avait là un cheminement en dehors de cette sphère de péché, donc de malédiction, de mort. Le salaire du péché, c'est la mort. À travers une transformation qui amènerait l'homme dans toutes ses dimensions, corps, âme et esprit, à atteindre, eh bien, le plan de Dieu dans cette immortalité et pour cette éternité. Alors, on s'aperçoit que, et on sait maintenant que les choses ont été dans le sens contraire. Et c'est vrai que quand on lit ces textes, comme Romains, quand on voit tout ce qui nous est dit de la doctrine du salut, de la rédemption, c'est véritablement dans toutes les pages de la Bible, hein, on le reconnaît dans toutes les pages de la Bible, donc d'une nécessité. Et Dieu, constatant la chute de l'homme, ne s'est jamais résigné à dire « ils sont perdus, ils resteront perdus ». Non, Dieu a dit « ils sont perdus, mais je vais les sauver ». Ça, c'est la détermination de Dieu. Cependant, pour ressembler à l'image de son Créateur et de son Père, il faut que l'homme soit libre. Et ça, c'est une des caractéristiques de ce qu'est Dieu dans sa nature même. Dieu est juste, il est saint, il est parfait, hein, il est amour, etc., etc. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, Dieu a voulu, au summum finalement des dons qu'il nous a donnés, que l'homme soit libre. Le libre arbitre, autrement l'homme serait resté un esclave, il serait resté en dépendance, il aurait été un automate, il aurait été tout simplement un robot. Et ça, il n'en était pas question pour Dieu, certainement pas. Pas de ressemblance morale, puisque nous avons été faits à l'image de Dieu, vous comprenez, c'est une image pas physique, mais morale. Pas de ressemblance morale sans moralité. Et c'est là où justement les choses deviennent difficiles. Pour nous, en tous les cas. Or, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de morale sans liberté. Il faut que nous soyons libres, et nous sommes libres. Alors, ça recouvre beaucoup de choses. Je m'expliquerai. Pour ce faire, Dieu met sur la route de l'homme un choix. Et vous savez que tout choix comporte un risque de bien ou de mal choisir. D'aller dans la bonne direction ou d'aller dans la mauvaise direction. Dieu a fait le choix de nous laisser libres. Et nous, dans notre liberté, nous faisons le choix de choisir bien ou de choisir mal. C'est un risque. Ce choix est figuré dans l'Écriture sainte par deux arbres symboles. Je précise, symboles ou emblématiques, si vous voulez. Celui de la vie, qui représente l'éducation de la foi et de l'amour, et qui dit amour dit confiance. La foi, c'est la confiance. Par l'obéissance, je sais, je connais, je crois à ce que je sais, et parce que véritablement je le sais, et par amour, j'obéis. Ça, c'est la première proposition. Ou alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'image, à la fois symbole et emblème, de l'indépendance et de la rupture de la tutelle parfaite de Dieu. Je fais ce que je veux, je fais ce qu'il me plaît, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne le fais pas. Ça se résume comme cela, c'est un petit peu manichéen mon histoire, oui, non, hein, bien, mal, etc. Mais c'est peut-être primaire, mais c'est comme ça. Hein. Parce que elle est faite comme ça, elle n'est pas faite autrement. Alors, on s'aperçoit que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est cette séparation, cette rupture de cette sainte, cet appel que Dieu nous a donné et que finalement nous ne suivons pas. Alors, après le chapitre 3 et pendant le drame du chapitre 3, l'homme décidera seul. Il sait, mais il a choisi autrement. Donc, il décidera seul d'arrêter ses choix d'une manière délibérée et personnelle, d'après tout simplement l'impression, c'est dangereux ça, d'après l'impression bonne ou mauvaise des choses, sans vraiment savoir si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises. J'espère que je suis pas trop compliqué ce matin. Je suis pas philosophé, hein. C'est pas de la théologie, c'est pas de la haute théologie, mais c'est quand même quelque chose de logique. J'essaie de vous expliquer un petit peu ce qui est dans la pensée du monde, de l'humanité, par rapport à ce grand mystère de la vie. Et ce grand mystère de Dieu, parce que j'essaie de mettre des mots simples, mais on va essayer d'aller plus loin tout à l'heure. Parce que l'homme se disant « moi je suis grand garçon et je peux me débrouiller tout seul », mais quand il se débrouille tout seul, il ne sait pas si vraiment, vraiment, réellement, c'est le bien de Dieu, bien approximatif ou franchement le mal, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le bien en disant « je fais le bien », alors que quelque part… la finalité et le sous-produit de ces choix, c'est le mal. C'est l'histoire de notre monde. Et il ne serait pas aussi ensanglanté, aussi corrompu, si véritablement eh bien, les choses avaient été faites dans le choix du premier arbre. Certainement, parce que Dieu nous aurait donné une connaissance, une valeur des choses, une appréciation. Voilà. Alors les choses sont ainsi et il faut faire avec. Naturellement. Et parce qu'il faut faire avec, il y a la suite. Ce qui va nous amener à l'habit de gloire d'ici quelques instants. Ce qui est juste ou inique. Ce qui est profitable pour l'homme ou nuisible. Ce qui est salutaire ou mortel. L'homme livré à lui-même, enclin fatalement à suivre les instincts et les pulsions de sa nature terrestre, parce que c'est le bas qui a pris le dessus, c'est pas le haut. Le raisonnement, c'est que finalement, il a les pieds sur terre, il est bien enfoncé dans la poussière, et la rupture avec ce qu'il y a au-dessus et ce qui pourrait l'inspirer en bien, eh bien, ça n'existe plus maintenant. Alors, il fonctionne avec des instincts, des réactivités, des réactions, avec des pulsions, avec des stimuli. Parce que ça passe par ses sens, ça passe pas par son esprit maintenant, mais ça passe par ses sens. J'ai faim, je mange, je bois, etc., etc. Et puis, d'une amplification à faire des ondes de choc et des tsunamis, hein, naturellement. Parce que c'est le bas qui fonctionne, c'est sa nature terrestre. C'est pour cela qu'on parle de l'âme terrestre, on parle de l'homme charnel. C'est la dimension de son corps, et c'est la dimension aidée par son âme. Mais la dimension de son esprit, alors, voilà. Sa nature terrestre, animale, nous parle la Bible, est primaire, car en lui, dans sa personne, désormais la dimension d'en haut, celle de l'Esprit de Dieu, eh bien est absente, elle a disparu, elle est effacée, et il faut la retrouver. Il faut que l'homme nu, dépouillé, qui s'est dépouillé lui-même de sa véritable identité, de son origine, eh bien, il est nu, et c'est ce que nous allons voir. Alors, c'est vrai que Dieu sait où aboutit cette dénaturation de sa créature. Aussi, il l'éprouve dès les premiers instants où il commence à marcher dans le jardin d'Éden, il l'éprouve par la méthode d'autorité. Parce que l'homme qui se croit un homme n'est qu'un enfant. Et un enfant, il a besoin de parents. Il a besoin d'éducateurs, il a besoin d'une instruction, il a besoin d'un accompagnement, il a besoin d'avoir, eh bien là, des exemples. Alors Dieu va commencer par enseigner l'homme avec une méthode d'autorité. Et cette méthode d'autorité, eh bien, permettez-moi, je voudrais simplement vous la rappeler. Elle est toute simple. Genèse 2, chapitre 15. Chapitre 2, pardon, verset 15, je suis en train d'inverser. Il nous est dit que l'Éternel, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'homme fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 15, il est rappelé aussi cela. Il est dit, mais Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ça, c'était le développement sur le plan humain, physique, etc. Parce que c'était pas seulement pour cultiver des fraises et puis ramasser des framboises. Hein. Comprenez, ça c'est... Mais c'était aussi un développement à la fois physique et moral. Alors ensuite, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà. Ça, c'est la méthode d'autorité. Mais on est loin de l'arbitraire absolu de faire de l'homme un robot. Tu sais, tu connais. Maintenant, eh bien, avec ce que tu sais, eh bien, il va falloir que tu agisses. Il va falloir que tu régisses ta vie. C'est ça, justement, le grand privilège que nous avons. Dieu nous a insufflé un souffle de vie, et puis après, on fait ce qu'on veut. Hein. Eh oui. Je l'appellerai à ce moment-là Adam, l'homme enfant. Parce que dans la Bible, quand il est parlé de l'homme converti à Jésus-Christ, il nous est parlé de l'homme mûr. De l'homme fait en Jésus-Christ, de l'homme qui arrive à une maturation qui fait qu'il est capable, comme nous dit le livre des Hébreux, de choisir entre le bien et le mal, avec sérénité et avec justesse. Alors l'homme enfant ne comprend pas parce qu'il ne sait pas encore quelque chose. Et ce quelque chose, on va le dire. Il ne sait pas encore quelque chose que Dieu sait, que Dieu allait lui révéler en fonction de la graduation de sa maturité. Ça viendrait, il le saurait, l'homme. C'était pas possible. Parce que, il y avait quand même deux arbres. Celui de la vie et celui de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'homme enfant, eh bien là, est encore dans une période d'ignorance. Il ne sait pas encore qu'un péril invisible existe. Dieu le sait. L'homme ne le sait pas encore. Il ne sait pas ce que c'est que le mal et la mort. Nous, on sait bien ce que c'est. Hein. On le sait. Par héritage, transmission, par filiation, nous pourrions dire. Et c'est un véritable défi dans lequel Dieu voulait préserver encore l'homme dans son innocence d'enfance pour le faire grandir et ensuite lui dire « voilà les choses, tu vas ». Voilà, c'est ça le monde. C'est ça le monde. Mais dans ce monde dans lequel je te donne, c'est le jardin d'Éden. Il est parfait ce jardin, il est protecteur, il est sécurisant pour toi. Mais surtout ne laisse pas rentrer le mal, parce qu'à partir du moment, c'est le monde entier qui sera dans le mal. Pour l'instant, le mal est dehors. Alors, c'est un défi. La chose que Dieu lui apprend, mais pour le sauvegarder, c'est pas Dieu instituteur avec sa règle et puis en disant mets tes doigts sur la table et boum boum tu te retrouves avec c'est pas ça hein. C'est par amour que Dieu le fait. Comme des parents ne disent pas tout à un enfant de 5 ans. Même à 10 ans. Il y a quand même les petits pastilles moins de 12 ans, moins de 12 ans ou je sais pas quoi, moins de 10 ans ou après c'est moins de 16 ans et puis après ça va en crescendo en fonction de comprenez? Ce sont des signalétiques pour nous dire, voilà. Mais Dieu, il n'y avait certainement aucun cas que Dieu cache la réalité d'un monde qui n'était pas le monde bon, le monde du bien. Alors il fallait attendre que tout ça s'agrandisse, comme nous nous attendons que nos enfants grandissent. Parce que c'est inconcevable quand on voit des parents dire, faire, montrer des choses à un enfant qui n'est pas capable de les supporter. Donner un verre d'alcool à un enfant quand il a 5 ans, vous allez voir, hein, ça va changer du biberon. Hein, surtout dans les résultats. Hein. Et ben c'est la même chose, si vous voulez. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu... Mais c'est pourtant une réalité. Alors, pour cela, l'enfant, l'homme enfant, Adam dans cet état, doit faire confiance. C'est tout. comme quand un enfant est affolé d'une chose qu'il ne comprend pas, on lui dit, mais fais confiance à papa et maman, tout simplement. Fais confiance. C'est la clé, hein. Fais confiance, il doit faire confiance totalement à son Créateur, même s'il ne comprend pas pourquoi. Pourquoi, Seigneur, tu nous as dit qu'il y avait un arbre de cette manière et un arbre de l'autre? Tu nous as dit qu'on pouvait prendre du premier, mais qu'on fallait pas, on pouvait pas prendre du deuxième. Mais je comprends pas, Seigneur. Il y a beaucoup de gens devant ce questionnement et devant cette perplexité se révoltent contre Dieu. Même des enfants de Dieu. Alors ne vous révoltez pas parce que ce que vous comprenez pas maintenant, vous le comprendrez plus tard. Mais la révolte va vous éloigner complètement de la réponse que Dieu va vous donner. Et ça, c'est dans tous les domaines de notre vie. Surtout devant la souffrance. Alors, il s'agit de la foi, la confiance, qui assurera à l'homme, s'il écoute et qu'il obéit, sa protection. Et obéir se résume en un mot, c'est aimer. Tout l'évangile est présenté par Jésus autour de ce thème, amour. La foi, c'est la confiance dans l'amour, parce que l'amour résout tous les problèmes. Et après, je peux obéir sereinement parce que je n'ai plus de peur. Je n'ai plus de doute, je sais sur quel chemin je marche. Je sais à qui je fais confiance. Ainsi, sa conscience, je parle de la conscience d'Adam, ou la conscience de l'homme. Sa conscience suppléera à son intelligence. Qui ne comprendra pas, c'est sa foi qui va faire la différence. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et son cœur sauvera sa raison, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous mettons la raison avant tout le reste. Si je ne vois de mes yeux et en touche de mes mains, il y en a un, vous connaissez, notre fameux Thomas, alors à ce moment-là, je ne croirai pas. Mais Dieu nous dit que nous ne sommes pas sauvés par la raison, par la tête, par notre intelligence ou notre cérébral, nous sommes sauvés par la foi du cœur. Si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. C'est comme cela que les choses se résument. Pas moi qui l'ai inventé, c'est Paul qui l'a écrit. Alors, son cœur sauvera sa raison jusqu'au moment où l'homme, devenu mature et adulte, c'était dans la prévision de Dieu, découvrira que sa raison n'a pas été dupe de son cœur. Je tourne les choses un petit peu comme ça pour essayer de comprendre ce qui peut se passer dans notre fort intérieur. Il dira, mais j'ai eu mes raisons. Dieu qui est dans mon cœur ne me trompera jamais. Mon cœur, mes sentiments qui sont purs parce que c'est Dieu qui y habite. Eh bien, à ce moment-là, je me tromperai jamais. Parce que c'est normal. Bon, on n'en est plus là aujourd'hui, hein, parce que vous savez, on a fait du chemin, mais dans le sens inverse. Alors, je rappelle que le principe, le choix, c'est un risque. Dieu a pris le risque. Il y a un sujet tout à fait particulier, c'est quand Dieu risque Job devant Satan. Quand Dieu risque le sacrificateur Josué, vous savez, dans le livre des Ézéchiel, je ne sais plus exactement, voilà. Quand il y a l'accusateur, donc le diable qui accuse le sacrificateur Josué, Dieu intervient en disant, mais Josué, c'est mon serviteur, tu n'y toucheras pas. C'est tout le livre de la Genèse, je ne vais pas vous le relire ce matin. Je ne vais pas vous relire même le chapitre 3, je vais prendre quelques fractions du chapitre 3. Ce chapitre 3 nous explique que la chute, cet effondrement pitoyable, parce qu'il n'y a pas de mots, et je crois que c'est encore un euphémisme, cet effondrement pitoyable de l'humanité, ou comment l'homme serait-il maintenant heureux, notre condition du jeu, comment serait-on heureux maintenant, puisqu'il n'a plus la paix, et on ne peut pas être heureux sans la paix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les hommes se préfèrent à faire la guerre, pour multiplier les malheurs, pour arriver à la paix. Ben, vous m'excuserez, mais, enfin, moi, je fais pas de politique. Mais quand même. On est à contresens, et le monde entier est à contresens. L'humanité est à contresens du raisonnement de Dieu. Mais comme il n'y a pas d'amour, comme il n'y a pas de confiance, qu'est-ce que vous voulez bâtir? Mais quel édifice de l'humanité vous voulez bâtir puisqu'il n'y a pas les matériaux? On les connaît de nom. mais on ne les connaît pas dans leur réalité. Alors, c'est le monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas la paix. Par exemple, si l'homme était resté sous la tutelle divine, qu'il n'avait pas franchi le Rubicon, comme l'on dit, c'est-à-dire le passage fatidique qui fait tout basculer dans le mauvais, Dieu lui aurait appris ce que c'est que la vraie liberté et la vraie vie. Et aujourd'hui, on n'en serait pas là. Vous vous rendez compte? La société dans laquelle on serait, vous n'auriez plus mal aux dents. Il n'y aurait plus de prison. Il n'y aurait plus de juges. Sur les bords des routes, il n'y aurait pas de radar ni de gendarmes. Waouh! Quelle société! Vous vous rendez compte? C'est formidable! Eh oui, mais le mal est dominant dans notre monde. Ce qui fera dire à l'apôtre Jean, quand il écrira dans sa première épître, il dira, mais le monde entier gît dans le malin. Et nous, on est habitués à cette odeur. Parce qu'on est comme le reste des hommes. On vit dans cette humanité, on est aussi dans cette enveloppe charnelle où nous vivons dans ce monde. Et comme ça devient impossible, irrespirable, mais comme on s'est tellement habitué à respirer tout ça, c'est qu'on n'y fait plus attention. Oh, on sait très bien que c'est mal. Mais de toute façon, humainement parlant, et les hommes depuis les temps immémoriaux ont essayé de trouver des solutions, des philosophies, des régimes politiques, économiques, etc. pour trouver des solutions, mais à chaque fois ça... C'est comme la limonade, vous comprenez? Ça, il ne reste plus rien du tout. Alors, ça c'est vraiment préoccupant. Ainsi, l'humanité est devenue, dans le meilleur des cas, devenue majeure et avertie de la dangerosité du monde invisible. Celle-ci aurait pu alors se mesurer, c'est-à-dire se défendre, combattre efficacement avec les armes de Dieu. Elle aurait pu se mesurer avec l'ennemi. Et elle aurait été vainqueur du mal. Comme celui qui a dit dans l'évangile, et celui qui a dit ces paroles dans l'évangile, c'est Jésus, il s'appelle Jésus. Il est dit ceci, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de moi. Jésus ajoutera également dans l'évangile de Jean, prenez courage, j'ai vaincu le monde, ne vous découragez pas. Parce que, finalement, vous êtes plus fort que le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà la chose. Alors, dites donc, on est loin du compte aujourd'hui. Hein ? Jésus l'a dit parce qu'il était le deuxième Adam. Premier Adam, celui qui a succombé dans la chute. Le deuxième Adam, celui qui était vainqueur de la chute et de la perdition des hommes. Deuxième Adam, dixit Paul, 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, on en arrive à notre sujet, parce que j'ai voulu faire une introduction pour comprendre pourquoi l'habit de gloire. Pour vaincre et surmonter et remonter la pente, le retour à Dieu est indispensable. Alors on pourra toujours formuler les choses comme l'on fait dans l'évangélisation, prêcher la parole, amener les gens à la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, voilà. Mais je vais le dire d'une autre manière. L'homme se perd et du même coup, il a perdu complètement la notion de Dieu, de son Créateur et de son Père selon Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Je le rappelle parce que c'est quand même des textes qui me semble quand même très important. Il est dit ceci, « Voici donc ce que je dis, dit Paul, et ce que je déclare dans le Seigneur. Hein, » S'il le déclare dans le Seigneur, c'est pas lui qui le déclare de sa propre imagination et de ses propres inspirations. « Vous ne devez plus marcher comme les païens, » en parlant des chrétiens. « Qui marchent, eux ?» Eux qui sont encore à cueillir du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui marchent selon la vérité de leur, la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de l'orgueil. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous vous rendez compte? Accumulation de choses qui montrent en l'espace de deux lignes tout l'effondrement de l'identité humaine en tant que créature de Dieu, intelligence obscurcie, étranger à la vie de Dieu, ignorance qui est en eux, endurcissement de leur cœur, tout sentiment de vérité, de justice, ils l'ont complètement égaré. Ils se sont livrés à ce moment-là, puisqu'il n'y a plus de frein, puisqu'il n'y a plus de choses qui puissent encore réfréner ou arrêter ou crier donner des signaux d'alarme d'un danger mortel. Alors, livrés au dérèglement, ils ont commis toute espèce d'impureté et de cupidité. Alors ça, c'est sûr que je peux vous dire qu'avec l'argent, la cupidité, on fait beaucoup de choses dans le sens du mal. Ouais. Et on s'aperçoit que dans tout cela, eh bien, c'est une vérité. Parce que quand on voit le monde qui se débat, comme il s'est toujours débattu, cherchant le bien désespérément, cherche bien désespérément, à travers des philosophies, à travers des savants, à travers des hommes que l'on va prendre pour référence et qui sont aussi pécheurs que les autres, et voilà, à travers des systèmes, à travers des religions aussi, hein. On se donne des religions pour avoir une bonne conscience, parce que comme on est encore nu, l'habit de gloire n'a pas été revêtu. Alors à ce moment-là, ben on va en haillons de droite et de gauche et on se déchire à toutes sortes de choses et l'humanité se déchire de plus en plus parce que plus elle rentre dans une dimension de technologie et au-delà même tout ce qui est high-tech, alors plus elle devient puissante en quelque sorte, mais cette puissante va produire finalement des sous-produits qui vont non pas être pour le bien de l'humanité mais pour sa destruction. Ah, écoutez, vous allez me dire c'est peut-être simpliste, hein, mais la bombe atomique ça a quand même été... Et aujourd'hui, on la tient en réserve parce qu'on se dit, on va tous se retrouver sur Mars. Hein. Couvrez-vous parce qu'il fait pas chaud là. Ouais. Alors voilà, l'homme croit au mensonge de l'ennemi. Et il a cru dès le départ au mensonge de l'ennemi, tout simplement. Alors on va voir ce mensonge, chapitre 4 de Genèse, 4 et 6. Qu'est-ce qu'il nous est dit là ? Alors le serpent dit à la femme... Vous ne mourrez point, votre Dieu, votre Créateur, il s'est bien moqué de vous. Quand il a dit qu'il fallait pas toucher à ça parce que vous alliez mourir, il vous a dit que vous mourriez certainement. Mais moi, je vous dis autre chose. Mais vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Oui, ils vont s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir nos yeux. Ah, ça c'est sûr. Et que vous serez comme des dieux, vous rendez compte? C'est bien d'être un dieu quand on est un homme, hein. Il y a des hommes qui se sont pris pour des dieux, hein. Depuis tous les temps dans l'histoire, ils sont partout, hein, ces gens-là, hein. Connaissant le bien et le mal, ah, vous allez connaître le bien. Ah ouais. Mais quand vous allez connaître le bien, vous connaîtrez davantage le mal, et quand vous voulez revenir au bien, vous pourrez pas revenir, parce que c'est le mal qui va vous dominer, dans votre connaissance, dans votre intelligence. Alors la femme vit que l'arbre était bon quand même, elle a entendu, mais elle dit c'est beau quand même, hein, tout ça. C'est formidable, la curiosité. Il était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est quand même mieux d'être intelligent que d'être bête. Hein. Elle prit de son fruit et en mangea. Il est bon. Ah oui, il était de saison celui-ci. Hein. Elle en donna à son mari, pauvre Adam, c'est lui qui avait reçu, l'ordre. C'est pas la femme. Elle en donne. Tiens, regarde, je t'ai fait un petit cadeau. C'est ton anniversaire. Enfin, je sais pas s'il y avait des anniversaires, mais enfin, peu importe. Je te fais, voilà. Je te donne, voilà. Il lui en donna aussi. Il est auprès d'elle. Et le pauvre, il en a mangé. La responsabilité première, primaire, c'était Adam. Et il le savait. Mais il n'a pas cru. Il ne l'a pas cru. Alors les yeux se sont ouverts sur la tragique vérité et il a commencé à éprouver quelques sentiments. Un, la peur qui n'a jamais quitté l'humanité depuis aujourd'hui, depuis toujours. La peur. Il fait une autre découverte. Il est nu. Nudité. Et parce qu'il a peur, et parce qu'il est nu, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Vous savez, dans l'ensemble, quoique de plus en plus, les cambrioleurs sont drôlement osés, ils font maintenant des hold-up de plein jour. Mais dans le temps, quand on voulait faire des mauvais coups, on le faisait la nuit. Voilà. Et encore, pas des nuits de pleine lune. Ah oui, c'est un mécanisme. C'est dans la psychologie humaine, le mal, il faut le cacher. Oui. Voilà, ils ont préféré les ténèbres à la lumière, naturellement. Alors, tout ça, ça a mis en lumière toute cette réalité. Et dans Genèse, chapitre 3, verset 7, il est simplement, toujours chapitre 3, verset 7-8, il est dit ceci, « L'Éternel Dieu forma l'homme. » Ah, je suis pas dans le bon chapitre. Voilà. Voilà, excusez-moi. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, il entend toujours, hein. Et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Tout simplement. Arrêtons-nous sur ceci. Il nous est dit qu'Adam a cousu des feuilles de figuier. Christian Dior, ou je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il avait trouvé des feuilles de figuier, il s'est cousu des feuilles de figuier, qui est l'expression d'une tentative désespérée de réparation pour cacher la vérité de nudité et de déchéance de vie morale et spirituelle dans cette immense solitude parce que Dieu n'était plus là. Et vous savez, nous pouvons raisonner sur le monde de cette manière, si l'on veut. Ouais. Le monde qui se fabrique des feuilles de figuier pour masquer, pour maquiller, pour dissimuler une triste réalité. C'est pas qu'ils étaient non seulement nus physiquement, mais ils étaient nus moralement et spirituellement. Et ça, insupportable. C'est insupportable à la créature, puisque nous avons la main de Dieu, nous avons la pensée de l'éternité. C'est insupportable pour l'homme, pour l'humanité. C'est pas possible. Alors on se précipite dans tous les figuiers, dans tous les coins où il y a des figuiers ou autres, et puis on se dit, c'est terminé, c'est bien, on est bien comme ça. Quand nous lisons la suite, dans Éphésiens, j'ai pris pas mal de textes, mais bon, on va gérer tout cela. Éphésiens, il nous est donné justement, la signification au chapitre 4, verset 20. Alors, que je retrouve, voilà. Donc, Éphésiens 4, verset 20 et verset 24. Écoutez bien, on va donner une suite. Paul dit, ils sont inintelligents, on vient de lire le texte tout à l'heure. Ils sont perdus, ils sont corrompus. Mais Paul dit, mais vous, les chrétiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Alors je marque le mot, par rapport à votre vie passée, du vieil homme, oui, le vieil Adam qui est toujours en nous, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et on y revient. Ce que nous avons perdu en cours de route, le Seigneur nous le ramène. Mais il faut se dépouiller pour se revêtir. Voilà. Et là, Adam, lui, il était déjà tout nu, mais il a voulu se revêtir. Il a voulu inventer quelque chose. Adam instinctivement se couvre pour masquer sa misère. Et vous savez, ça, c'est un mot qu'on connaît, c'est la dissimulation et le mensonge. D'une façon ou d'une autre, le mensonge, on peut mentir sans parole. On peut mentir par des attitudes. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Vous êtes une bande d'hypocrites. Parce que finalement, ce que vous voulez cacher, on le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le connaît. Paul nous parle de nous dépouiller de nos feuilles de figuier illusoires, qui ne sont que le reflet de ce qui est enseigné dans la Bible, dans l'épître aux Hébreux, les œuvres mortes. Vous comprenez? Les œuvres mortes de la chair. Les œuvres mortes de la chair, c'est quoi? C'est la religiosité. C'est toutes ces choses qui font que, avec se croyant bon, suffisant, nos béats, et puis nos mérites et nos qualités d'homme, en disant, on entasse des feuilles de figuier, en disant, on n'est pas si mauvais que ça, vous savez. quelque part, l'homme va bien y arriver à l'âge d'or, hein, et on n'a pas besoin de Dieu, c'est tout simplement le remake de Babel. Hein. Vous connaissez Babel, hein? On ira bien tous ensemble, car l'union fait la force, et bien on montre au ciel, et puis on dira à Dieu que finalement on est plus fort que lui. Alors les feuilles de figuier, eh bien c'est ça un petit peu, hein, illusoire, œuvre marque, pour nous revêtir d'un habit nouveau, comme Paul l'enseigne, offert par Dieu, c'est-à-dire le pardon et le salut par la foi, et qui est reçu comme une grâce. C'est la doctrine de la rédemption, c'est la doctrine du salut que nous sommes en train de parler ce matin. Et elle était déjà inscrite dès le moment de la chute. Vous vous rendez compte? Dès la chute de l'homme, Dieu avait déjà prévu tout le plan. C'est extraordinaire d'étudier la Bible. C'est formidable. Merveilleux. Ah oui. La chute, l'homme tombe, il est complètement écrasé, il est déjà dans la mort. Dieu dit, mais je vais les sauver. Et la détermination, c'était pas, il n'était pas résolu à nous laisser aller comme cela, mais de dire, eh bien, le plan est déjà prêt. Parce que le choix était un risque. Ça aurait pu être autrement. Parfaitement autrement. Mais c'était là, dans l'autre sens, et c'est terrible. En fait, ces feuilles de figuier typifient tout ce que l'homme a inventé pour faire son salut par lui-même. Œuvre morte. Eh oui, si on y regarde bien, c'est ça. Dieu donne une autre solution au problème, et nous allons le voir maintenant. Dans Genèse chapitre 3, verset 21, c'est le deuxième texte que nous avons lu tout à l'heure. Alors je vais lire à partir du verset 20, ça ne gâche pas. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, c'est-à-dire vie. Car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, non, Dieu, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Le premier geste de couture, c'est Adam qui s'est fait lui-même. Et la deuxième phase, c'est Dieu qui fait. Quand l'homme fait, il se perd. Quand Dieu fait pour nous sauver, eh ben, ça réussit. Et ça devrait nous vacciner une fois pour toutes contre les bonnes œuvres sans la foi. Les bonnes œuvres religieuses. Le légalisme. À travers toutes ces choses. Nous sommes appelés à vivre une vie dans l'esprit, mes frères et sœurs. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Merci Seigneur. Ah oui. Moi je crois à la grâce de Dieu. Je crois au miracle de Dieu dans ma vie, dans vos vies. Mais Seigneur, qu'est-ce que je suis? Je suis un fils d'Adam. Je suis perdu. Mais quand les gens me disent, pensent qu'ils sont pas perdus ou qu'ils sont pas perdus complètement et qu'ils peuvent encore donner un petit coup de main, à Dieu pour dire, ben écoute, je vais t'aider à mon propre salut, et ben là, nous perdons notre temps. Parce qu'il y a une parole. Et si elle était donnée à la croix pour terminer la carrière ou la vie, l'existence de Jésus sur la terre, c'est quand même quand Jésus a dit, tout est accompli, mais qu'est-ce que j'ai à accomplir d'autre? Sinon croire, hein, et de me réfugier en lui. Seigneur, c'est tout. Des vêtements de feuilles, eh bien, sont remplacés par des vêtements plus durables, parce que c'est vrai, hein, un coup de vent, la feuille, elle s'en va. Mais des vêtements plus durables. Mais il y a quelque chose qui ont une signification spirituelle que je qualifierais d'expiatoire. Et de substitution. Car le péché qui vient d'avoir lieu rend nécessairement un sacrifice pour atténuer la domination de l'être charnel dans l'être humain. Il y a quelque chose qui va remplacer à ce moment-là. Oui, un sacrifice pour neutraliser la domination donc de ce qui a pris la dominante dans nos corps et dans nos âmes, et corrompu quelquefois nos esprits par quelque chose qui va venir. Et le péché entraîne, je l'ai dit, première lecture, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qu'on mérite, un salaire, on le mérite quand on a travaillé, on le mérite. c'est de justice. Et là, on s'aperçoit que le péché entraîne inexorablement la condamnation, puis son exécution, c'est-à-dire la mort. Cela s'appelle la justice de Dieu. La justice de Dieu. Et si nous étions encore sous la justice de Dieu, eh bien, nous ne pourrions pas vivre. Il n'y a qu'une chose, c'est que nous sommes condamnés sous cette justice. Mais il y a quelque chose de plus grand. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça résout le problème. Parce que je peux pas dire, dis donc, Seigneur, je t'ai aidé à faire quelque chose. Seigneur a dit, t'as rien aidé du tout. C'est encore moi qui t'ai donné la force de croire que Jésus était ton sauveur. Moi qui t'ai donné encore le coup de main pour te repentir, pour te convertir. Parce que sans moi, il n'y aurait rien du tout. On est incapable de rien du tout. Et vous savez, toutes les religions, qu'elles soient chrétiennes ou non, ont toujours mis un petit peu la charrette, la ligne médiane, un petit peu, elles l'ont déplacée un petit peu, en faisant une part à Dieu, une part à l'homme. Ah oui, oui, bien sûr. Mais nous, dans le christianisme évangélique, mais toute la part est à Dieu. Et nous ne sommes rien. Nous sommes des rachetés par grâce, tout simplement. Et nous ne pouvons rien à tout cela. Ce vêtement dont Dieu revêt Adam est une couverture qui remplace les feuilles de figuier, c'est-à-dire cette inefficace et inutile couverture de feuilles. Eh oui, Dieu avait bien vu qu'avec ses feuilles, il n'allait pas se balader longtemps, le pauvre Adam. Il fallait quelque chose, mais quelque chose qui a un sens. Œuvre dérisoire des mains de l'homme, des mains souillées de l'homme, par le péché. Souvenons-nous des offrandes de Caïn. Pourquoi Caïn? Dieu l'a regardé d'une manière défavorable et qu'il a regardé Abel en disant « Mais son sacrifice est une bonne odeur qui s'élève vers Dieu. » Parce que l'un l'a fait avec foi et avec cœur et l'autre l'a fait en disant « Bien voilà, c'est le prix de mon travail. C'est moi qui l'ai fait, ça. » Dieu a dit « Bah écoute, t'as rien compris mon pauvre Caïn, parce que si t'as fait quelque chose, en tous les cas de tes mains, t'as tué ton frère. » Ça, c'est constaté. Alors qu'Abel, lui, il a offert son cœur, il a offert sa foi, et il a offert cela pour la gloire de Dieu. C'est bien la grande différence entre, j'insiste, mais un jour ça va m'arriver quelque chose, fort d'insister comme ça, mais c'est quand même bien la différence entre la dimension chrétienne de la vie de l'esprit et la dimension chrétienne de la religion. Dites rien parce que, vous savez que ça ne fait pas plaisir, ce genre de discours. Ah oui, quand vous dites aux hommes qu'ils sont perdus, ça leur fait pas plaisir. Mais quand vous leur dites, vous êtes perdus, mais Dieu vous sauve, et qu'ils l'acceptent, alors à ce moment-là, je peux vous dire, c'est pour le plus grand bonheur, pour leur éternité. Alors, où j'en étais? Le salut est l'œuvre exclusive de Dieu, qui a eu pour prix la mort de quelqu'un qui a payé à la place de tous. C'est ça, c'est le prix. Quelqu'un s'est dit, il est venu, il a mis en avant, tu leur pardonnes, moi je vais payer à leur place. C'est ça, le principe même de Dieu. Dieu fit des vêtements de peau et de bête et les en revêtit. Par cela, ou pour cela, la vie, le sang d'animaux a été sacrifié, ils ont été tués. Ils ont été mis à mort. Geste divin prémonitoire. Comme nous l'avons dans l'Ancien Testament, ce sont des milliers, des milliers, des millions et des millions pendant des siècles et des siècles d'animaux qui ont été sacrifiés sur ce principe. Ah oui, c'est l'Ancien Testament. C'est la doctrine sacrificielle, en quelque sorte, dans le cadre du judaïsme et de l'islam. Parce que bon. Alors on s'aperçoit que c'était un geste divin, donc, qui était prophétique, en attendant que le sang versé, que soit versé le sang de l'agneau immolé, c'est-à-dire, tout simplement, le sang qui coulera de la croix par Jésus-Christ crucifié et qui prendra sur lui les péchés de l'humanité entière. Eh oui, habit de peau. Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous dit Ésaïe 53, et puis partout il y a ça. C'était le premier sacrifice de l'histoire, là, quand Dieu a fait les vêtements de peau. Premier sacrifice de l'histoire qui devait apprendre aux hommes deux choses essentielles sur lesquelles je vais terminer maintenant. Romains chapitre 5, je l'ai dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce, La vie éternelle nous est donnée par Jésus-Christ à cause de son sacrifice, à cause de ce qu'il a pris, lui, notre place. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité nous est donnée par Jésus-Christ à cause de ce qu'il a accompli. Dans Ésaïe chapitre 53, c'est très évident aussi, puisqu'il nous est dit que il a fait retomber, Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, et il a été blessé pour nos meurtrissures. Il a été jeté et livré à la mort pour nous, pas pour lui, pour nous. Par le sacrifice d'un animal que l'on immolait, Dieu a accepté dans cette première dispensation l'expiation par le don d'une vie à la place du coupable ou des coupables. C'est compréhensible. Il y avait à ce moment-là pardon, rédemption, il y avait justification et sanctification. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, il nous est dit que Jésus-Christ a été fait pour nous, justice, pardon, etc., etc. Justification, tout cela. Ça s'appelle le salut. Pas plus difficile. Le salut est fait pour des gens qui sont perdus. Tout simplement. Alors, il y a une nécessité de se dépouiller du vêtement de honte, qui est celui-ci, on l'a vu, vêtement de honte, dont Adam était celui qui a montré les choses, hein, malheureusement. Un vêtement de honte et un vêtement d'humiliation, conséquence du péché, pour laisser Dieu nous revêtir d'un vêtement de gloire. Et aujourd'hui, si nous sommes convertis, si nous appartenons à Jésus, je voudrais vous dire, mes frères, eh bien que nous portons un vêtement de gloire aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ. Eh oui. Éphésiens, chapitre 4, verset 20. Je vais vous donner une nouvelle traduction. En français courant, ça donne ceci. C'est peut-être un petit peu plus, compréhensible, je ne sais pas. Qu'est-ce que Paul dit dans ce même texte? Je vous l'ai lu dans la forme seconde, Louis II, mais là, maintenant je lis dans le français courant. Vous devez donc vous débarrasser de votre vieille nature. C'est-à-dire, vous entendez par là vos feuilles de figuier, hein. Et puis, les vêtements de peau, ça c'était pour l'ancienne alliance, hein. On comprend. Les sacrifices d'animaux, etc. Et c'était le principe, c'était prémonitoire. C'est déjà, nous faisait entrer dans une conception qui serait la conception du plan parfait de Dieu. Alors, vous devez vous débarrasser de votre vieille nature et qui déterminait la façon de vous conduisiez avant, puisque nous étions charnels, nous étions humains et nous le sommes encore un tant soit peu, mais le Seigneur continue par la sanctification et la régénération à faire son œuvre. Vous vous conduisiez dans le passé, comme vous vous conduisiez de la façon dont vous conduisiez dans le passé, cette vieille nature, que ces désirs trompeurs, eh bien, qui vous menait à la ruine, c'est-à-dire à la perdition, à la mort. Il faut que vous soyez complètement renouvelé dans votre cœur et dans votre esprit. Revêtez-vous de l'habit nouveau, de la nouvelle nature qui est créée, qui a été créée à la ressemblance de Jésus-Christ. Notre but, c'est que nous ressemblions à Jésus-Christ, à la ressemblance de Christ. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Mais l'étape suivante, c'est que maintenant, avec la régénération, le retour, eh bien, nous sommes créés à l'image de Christ, qui est lui-même l'empreinte de Dieu et le reflet de sa gloire. Ça va loin. Je sais pas. Ça va, vous? C'est bon? Moi, je trouve que c'est quelque chose de, c'est ineffable. C'est le mot. Et vous savez, quand, une dernière chose, hein, mais quand vous voulez vous habiller avec, un bel habit, vous enlevez celui qui est d'avant. Hein. Parce que si vous mettez les habits les uns sur les autres, et il y a des gens qui font ça. Ben oui, ils gardent leur vieille nature, ils gardent tout ce qui est mauvais et tout ça en disant ben, ça va se couvrir par le reste. Hein. Et dites donc, je vais avoir des obèses. Hein. Oh là là, bibindome Michelin. Mais c'est terrible. Et ben c'est ça justement, il faut se dépouiller pour se revêtir. C'est la main de Dieu qui va nous revêtir. Et vous savez que c'est son projet pour chacun d'entre nous. Hein. Et c'est ce qu'il veut. Alors, je finis. Quand je dis que je finis. Hein. Bon. La doctrine d'une vie nouvelle est présentée partout dans la Bible. Dans Matthieu, par exemple, chapitre 9, quand Jésus enseignera, ce qu'est le vieil habit et l'habit nouveau. Parce que si vous mettez du vin neuf, du vin nouveau, dans des vieilles outres, paf, ça éclate. Parce qu'il y a la vie dans le vin nouveau. Eh oui, il est en pleine effervescence. Quand il est question du fils prodigue, qu'est-ce que fait le père? Première chose qu'il fait, il lui donne une robe neuve. Et ça va même jusqu'à revêtir Jésus de ce vêtement d'ignominie qu'Hérode lui a mis sur le dos. C'était pour se moquer. Mais lui, il n'avait rien compris de rien. Hein, parce que finalement, en mettant cette robe sur Jésus qui était maltraité à ce moment-là, qui était au moment du pire de sa passion, eh bien, Hérode, sans le savoir, il était en train d'annoncer le salut. Ouais. Tout simplement. Et puis dans Luc, il nous a demandé, encore, il y en a beaucoup de références comme ça, hein, sur se revêtir et l'habit nouveau, mais il nous a demandé à un moment dans Luc, vous serez, Jésus nous dit, vous recevrez une puissance et vous serez revêtus du Saint-Esprit. Alors là, ça, c'est pas les feuilles de figuier. Là, c'est pas le sacrifice d'une peau d'animal, enfin, mais c'est véritablement le nec plus ultra, le baptême dans le Saint-Esprit, avec les fruits du Saint-Esprit qui est à l'image de Jésus. Alors, revêtir, c'est revivre. Ouais. C'est mourir pour revivre. Et c'est un gage éternel de joie, de salut et de délivrance. Une belle dernière parole dans Ésaïe chapitre 61. Et il est dit, c'est le chrétien qui le dit, c'est le monde entier qui connaît Jésus qui le dit. « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu du vêtement du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Écoutez bien, il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a recouvert du manteau de la délivrance. Je suis revêtu du vêtement de sa justice, Jésus vit en moi, vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur, Jésus vit en moi, vit en moi. Quel bonheur de savoir combien je suis aimé aux cieux et que Dieu me donne un sauveur. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité, et gloire à ton nom, et gloire à ton salut, Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.